Info matin, Nicolas Legrand.
L'enquête se poursuit après le drame familial de Yaté. Une femme a été mortellement poignardée samedi soir à Ounia. Son mari est en garde à vue. Le haut commissaire maintient les mesures administratives. Jusqu'au 20 janvier, les quantités d'alcool pouvant être achetées restent limitées, tout comme les munitions. Enfin, les rassemblements, défilés et cortèges dans le Grand Nouméa sont toujours interdits. L'actualité nationale et trois ministres qui dénoncent le chaos migratoire à Mayotte. Dans une tribune, Bruno Retailleau, Manuel Valls et Sébastien Lecornu affirment que sans fermeté migratoire, nous reconstruirons Mayotte sur du sable. Marine Le Pen est sur place et la chef du file des députés RN leur a répondu. Les agriculteurs se préparent en métropole. La coordination rurale souhaite se faire entendre à Paris. Les tracteurs sont rassemblés en vue d'actions de blocage. Le sport et le Paris Saint-Germain qui conservent le trophée des champions. Une victoire 1-0 contre Monaco. La rencontre se disputait la nuit dernière au Qatar. La météo en Nouvelle-Calédonie. Le temps reste globalement maussade. Les nombreux nuages deviennent plus importants sur la chaîne et donnent de bonnes averses qui finissent par déborder sur les versants ouest de la chaîne. Les températures oscillent entre 28 et 30 degrés. Localement, 31 à 32 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans l'Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, ce week-end, une femme a donc été tuée par arme blanche à Yaté. Elle a succombé au coup de son compagnon. Une enquête pour homicide volontaire par conjoint a donc été ouverte par le parquet de Nouméa, Michael Juneski.
Les faits se sont produits vers 22h samedi soir à la tribu d'Ounia. Selon les premiers éléments des investigations, une dispute est survenue au sein du couple dans un contexte de forte alcoolisation. La victime, âgée de 54 ans, a reçu plusieurs coups de couteau, dont un au niveau du haut de la cuisse, une blessure susceptible d'avoir touché l'artère fémorale et provoqué son décès. Ceci sous réserve des investigations médicales en cours, précise le procureur de la République. Une autopsie doit être réalisée pour déterminer avec exactitude les raisons du décès. L'auteur présumé, âgé de 52 ans, s'était enfui dans la tribu juste après la scène de violence avant d'être retrouvé et remis aux gendarmes par des membres de la famille. Il a été interpellé à 23h20 et présentait alors un taux d'alcool de 2,14 grammes dans le sang. Il a d'abord été placé en dégrisement avant de pouvoir être placé en garde à vue. L'arme du crime, un couteau d'une longueur de lame de 22 cm a été découvert et saisi par les techniciens d'identification criminelle.
À Nouméa, une enquête devra déterminer les causes de la mort d'un homme de 83 ans dont la voiture est tombée au quai ferry vers 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les premières constatations, le véhicule aurait roulé jusqu'au quai, jusqu'à chuter et couler. Les plongeurs de la gendarmerie maritime ont retrouvé le corps de l'homme dans le véhicule. Il s'agirait d'un suicide selon les premiers éléments, mais une enquête devra faire toute la lumière sur les faits pour comprendre avec certitude ce qui s'est passé. Toujours en bref, trois jeunes ont été évacués d'Ouvéa samedi par un hélicoptère Puma des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Ils avaient été victimes d'un accident de la route dans l'après-midi dans le secteur de Lekine. Grâce à ce transport d'urgence, les accidentés ont pu être rapidement pris en charge par le Medipôle. Et puis au Mont d'Or, l'incendie qui ravageait la forêt du secteur de la Rivière Bleue en cette fin de semaine a été maîtrisé hier soir. Plus de 1130 hectares de végétation sont partis en fumée en l'espace de 4 jours. Je rappelle que le plan hors sec feu de forêt de niveau 2 a été déclenché jeudi dernier. La sécurité civile envisage de le lever demain. Un dispositif est mis en place ce matin pour surveiller les fumerolles. Rappelons que l'incendie est d'origine accidentelle et serait parti d'un barbecue allumé près de la rivière. Et puis, je le disais en titre, le Haut-Commissariat prolonge les restrictions concernant l'alcool, la vente de munitions, mais aussi les rassemblements jusqu'au 20 janvier, inclus Michael.
Malgré les allègements opérés par le Haut-Commissariat en fin d'année dernière, certaines restrictions demeurent concernant l'alcool. Il est donc toujours interdit d'acheter à emporter plus d'un litre d'alcool fort, 22 degrés, et plus de 4 litres de bière, de cidre ou de boisson de moins de 10 degrés. Pour les armes et munitions, l'acquisition par les personnes titulaires du permis de chasse de munitions de catégorie C est limitée à 50 par mois, quel que soit le nombre d'armes détenues. Les rassemblements, défilés et cortèges dans le Grand Nouméa sont toujours interdits jusqu'au 20 janvier prochain, je le rappelle.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici justement notre question du jour. Êtes-vous favorable au maintien des mesures de restriction ou souhaitez-vous qu'elles soient levées ? Si vous êtes favorable au maintien des mesures de restriction, alors vous tapez 1. Si vous souhaitez au contraire qu'elles soient levées, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Voyons enfin maintenant de quoi la semaine qui commence sera faite. Elle sera évidemment dominée, Michael Juneski, par l'élection des 11 membres du gouvernement.
Ce sera lors d'une séance solennelle au Congrès demain matin à 9h. Dans la foulée, les membres du gouvernement se réuniront pour élire un président. Il est possible qu'aucun des candidats en lice ne bénéficie de la majorité absolue. Dans ce cas, une nouvelle date est fixée pour l'élection du président. Par ailleurs, les élus du Congrès se retrouveront vendredi matin et ils devront étudier 3 projets de loi du pays, notamment la TGC dont l'examen avait été reporté en fin d'année dernière, mais aussi une modification du code civil et un projet de loi concernant les régulations de marché.
Alors, au-delà de l'actualité institutionnelle, Michael, il y a d'autres rendez-vous inscrits à l'agenda de la semaine.
Ouais, pour le reste, c'est ce matin que s'ouvrira la 28e préparation militaire marine qui va permettre à 49 stagiaires de suivre pendant 5 semaines une formation militaire théorique et pratique. Et puis dimanche prochain, comme tous les deuxièmes dimanches du mois, ce sera déjà le retour du marché de Mamia Farino, une première de l'année prévue comme toujours sur l'esplanade de la mairie.
Et enfin, vos rendez-vous d'antenne. Tout à l'heure à 7h30, notre invité du matin sera Emmanuel Rivet. Il est responsable du programme de prévention en addictologie à l'Agence sanitaire et sociale. Nous parlerons avec lui du Dry January ou le janvier sans alcool. Et puis, toujours sur notre antenne, notez que ce sera tout à l'heure la reprise de Vous avez un avis pour la première partie uniquement cette semaine. Ce sera donc de 7h05 à 7h20. Alors si vous avez un avis, un message à faire passer, que ce soit sur l'actualité ou sur un sujet du quotidien, n'hésitez pas à nous appeler au 25 46 46. C'est donc la reprise de la première partie de Vous avez un avis en direct sur Radio Rythme Bleu. En attendant, eh bien, il est 6h passé de 37 minutes et direction Mayotte juste après la publicité où Marine Le Pen vient d'arriver sur place. Vous pourrez l'entendre, elle veut se faire la porte-parole des Mahorais.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop, ne touchez à rien, on sait Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
Savez-vous qu'il est préférable de ne pas dépasser de 8 degrés l'écart entre la température intérieure et la température extérieure ? Sachez aussi qu'une habitation bien isolée permet de gagner jusqu'à 5 degrés de température intérieure.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Direction Mayotte pour la suite du journal où Marine Le Pen est arrivée cette nuit pour nous. Un déplacement de la présidente des députés RN, 3 semaines après le passage du cyclone Chido. Elle est venue à la fois constater les dégâts et soutenir les sinistrés. Marine Le Pen qui est très populaire dans cet archipel. Elle a d'ailleurs fait des scores très importants aux dernières élections. Pourtant, pas de comité d'accueil à l'aéroport. L'heure est à la gravité, Alexandre Chauveau.
Oui, absolument. On avait l'habitude des chants, des danses et des colliers à fleurs. Cette fois, place à la sobriété et ce, à la demande personnelle de Marine Le Pen. À son arrivée tout à l'heure, elle a dit d'abord vouloir écouter les Mahorais pour mieux s'en faire la porte-parole. Elle qui porte un attachement singulier à Mayotte où elle a obtenu effectivement 59% des suffrages au second tour de la présidentielle en 2022. Une venue près d'une semaine après celle de François Bayrou qui a présenté un plan de reconstruction de l'île. Alors la bonne application de ce plan pourrait-elle représenter un moyen de pression sur le gouvernement pour Marine Le Pen? Je vous propose d'écouter sa réponse.
Non mais j'espère que la souffrance des Mahorais suffit à mettre la pression sur le gouvernement, que j'ai pas besoin de mettre une pression supplémentaire. En revanche, je considère que les promesses qui ont été faites aux Mahorais qui sont dans une souffrance folle ne doivent pas être oubliées, voilà. Et donc si c'est nécessaire, évidemment qu'on sera présent pour rappeler au gouvernement les promesses qui ont pu être faites.
Marine Le Pen qui revendique également l'antériorité de ses propositions en matière migratoire pour Mayotte, et ce alors que Bruno Retailleau, Manuel Valls et Sébastien Lecornu appellent ce soir à durcir fortement la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Demain, la triple candidate à la présidentielle entamera un grand tour de l'archipel auprès des sinistrés.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, envoyé spécial à Mayotte. Alors vous venez de l'entendre, dans une tribune publiée dans Le Figaro, les ministres de l'Intérieur, des Outre-mer et des Armées estiment que sans fermeté migratoire, je cite, « nous reconstruirons Mayotte sur du sable ». Bruno Retailleau, Manuel Valls et Sébastien Lecornu insistent sur le fait que les souffrances des Mahorais n'ont pas commencé avec cette catastrophe. Il souligne que le chaos migratoire affecte gravement la sécurité, la santé, mais aussi les services publics de l'île. En 20 ans, la population a ainsi été multipliée par 5. Et aujourd'hui, un habitant sur deux n'est pas français, avec un quart vivant en situation irrégulière. Les trois ministres affirment donc que revenir sur le droit du sol à Mayotte est une question qu'il faut se poser. Eh bien, Marine Le Pen leur a répondu directement sur place. Écoutez.
Ils sont gentils, ça fait des années que nous disons ça, que sans régler le problème de l'immigration clandestine, eh bien rien ne sera utile. Vous m'avez entendu 100 fois dire ça, hein, donc pardonnez-moi d'avoir été la première, peut-être avant les ministres dont on parle, à avoir dit que faire des promesses pour faire des subventions, donner de l'argent à Mayotte ne servirait à rien si on ne réglait pas le problème de l'immigration clandestine. Voilà. Donc on peut continuer à faire semblant, hein, mais je crois que les Mahorais en ont un peu marre qu'on fasse semblant.
Et je rappelle que le gouvernement présentera des mesures dites de fermeté au Parlement à l'occasion d'un second projet de loi concernant Mayotte.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h41.
Dans le reste de l'actualité ce matin, la suite du feuilleton judiciaire du week-end. Un nouvel influenceur algérien est dans le viseur des autorités. Imad Tintin a été placé sous contrôle judiciaire et sera jugé la nuit prochaine en comparution immédiate pour provocation directe à un acte de terrorisme. Le parquet avait requis son placement en détention provisoire, mais le juge des libertés des détentions ne l'a pas suivi. Il est un soutien de Zazou Youssef, un autre influenceur qui sera jugé par le tribunal de Brest fin février. Lui, ce sera pour apologie du terrorisme, pour avoir appelé à des actes violents dans des vidéos. Et on apprend ce matin qu'un troisième influenceur a été arrêté à Montpellier, Antoine Bienveau.
Oui, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a confirmé il y a quelques minutes l'arrestation de cet influenceur d'origine algérienne et résident à Montpellier. Dans une vidéo postée ces derniers jours, il aurait appelé à des actions violentes sur le sol français en visant particulièrement des personnes qui souhaitaient manifester contre le régime algérien. Selon l'activiste Chouki Benzera, des propos antisémites auraient également été relevés dans cet extrait diffusé sur la plateforme TikTok. Surnommé Doualem ou Ami Tonton, il était suivi par 138 000 personnes. L'homme avait fait l'objet de nombreux signalements sur les réseaux sociaux avant donc d'être interpellé cet après-midi. Le maire de Montpellier et le préfet de l'Hérault avaient d'ailleurs eux-mêmes dénoncé les propos de cet internaute. Il s'agit là de la troisième interpellation d'influenceurs d'origine algérienne depuis le 1er janvier après Zazou Youssef et Imad Tintin. Le premier sera jugé le 24 février prochain par le tribunal de Brest. Le second a été placé sous contrôle judiciaire par le parquet de Grenoble et passera en comparution immédiate demain pour apologie du terrorisme.
Antoine Bienveau pour Europe 1. Justice toujours avec l'ouverture du procès la nuit prochaine de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien président est jugé pour corruption avec 12 autres prévenus, dont 3 anciens ministres. Pour son avocat, maître Christophe Ingrin, Nicolas Sarkozy fait l'objet d'accusations à charge de la part de certains magistrats.
Je vous ai dit que ce financement, il n'existe pas. Le retour de la Libye sur la scène mondiale, il date de 2004. Je le précise parce que ce n'est pas dans le dossier. Hein. Il date de 2004. Et ce n'est pas la France, c'est le monde entier. Le président Sarkozy, enfin le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, qui va pour la première fois en Libye en octobre 2005, il est le 39e dirigeant politique occidental à rendre visite à Muammar Kadhafi, le 39e. En 2004, Jacques Chirac est allé, tout le gouvernement Chirac qui défile en Libye, à Tripoli, en 2004, et qui rencontre Kadhafi. Pourquoi cette invention selon laquelle c'est grâce à Nicolas Sarkozy, grâce au président Sarkozy, que la Libye ferait son retour sur la scène mondiale? Ça n'a aucun sens. Les deux juges d'instruction ont renvoyé le président Sarkozy sur ce qu'ils appellent un faisceau d'indices. Le problème, c'est que le faisceau, quand vous prenez les indices les uns après les autres, ils s'effondrent tous. Donc c'est vraiment pas sérieux.
Maître Christophe Ingrin, l'avocat de Nicolas Sarkozy, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin. Et puis, je le disais en titre, enfin, la coordination rurale maintient son appel à la mobilisation. Le syndicat n'a pas dévoilé les actions qu'il compte mener, mais 4 points de rassemblement autour de Paris ont été donnés aux agriculteurs qui se préparent donc. Écoutez.
On est parti à 9h de Montauban et tout s'est très bien passé. Voilà, on vise Rungis, on vise le péage de Saint-Arnoult et on vise l'ensemble des centrales d'achat de la région parisienne. Vous verrez nos stratégies, vous verrez tout en temps réel. On ne fera pas de cadeaux à ce gouvernement qui nous prend pour des cons. Donc, vu qu'ils nous prennent pour des cons, eh ben, on dévoilera tout à la dernière minute. Et on compte fort sur le fait que d'autres montent dans les jours qui suivent. Et aussi sur le fait que la base des autres syndicats, à savoir principalement la FNSEA et les JA, nous rejoignent. Il y en a déjà qui nous rejoignent. On a hâte. On est encore plus déterminés. C'est pour ça qu'on monte, hein, vous savez. Ça ne nous amuse pas. On préférerait tous être chez nous.
Ça fait longtemps qu'on dit que l'acte 1 l'année dernière, il faut croire que ça n'a pas suffi. L'acte 2, le retour, c'était sûr certain. Donc on n'a plus de trésorerie, on n'a plus rien, les mecs sont motivés. On va attendre de voir le nombre de tracteurs qui sont là, le nombre de personnes, et après on avisera.
Reste donc à savoir quand ce convoi prendra la route, ce matin ou la nuit prochaine pour nous. Des discussions sont en cours avec le gouvernement pour trouver un lieu de rassemblement autorisé. Je rappelle que les agriculteurs veulent faire entendre leurs deux principales revendications, à savoir supprimer la surtransposition des règles européennes en France et contrôler davantage les exportations et non les fermes. Il est 6h passé de 46 minutes. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive avec notamment du football et le Paris Saint-Germain qui remporte le trophée des champions ou encore la réponse d'Antoine Comboiré face à certaines rumeurs.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Le Pizza & Pasta a le plaisir de reprendre son service à table. Un vaste choix de pizza, pâtes, risotto, pièces de viande et desserts. Le Pizza & Pasta Takeaway est toujours disponible. Nous avons hâte de vous retrouver. Pizza & Pasta, 24 30 70. Plus d'infos sur notre page Facebook Pizza & Pasta.
RRB, première radio d'information.
La suite de votre journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et à la une ce matin du football et la victoire de Paris dans le trophée des champions, Michael Genesky.
Oui, sur la pelouse du Qatar et d'une certaine manière à la maison pour le PSG, hein, c'est ce qu'a dit son entraîneur Luis Enrique. Les Parisiens se sont imposés sur les Monégasques, sur la plus petite des marques, 1-0 dans une rencontre verrouillée. Paris s'en est remis à une unique réalisation signée Dembélé dans les arrêts de jeu. Et le Paris Saint-Germain qui conserve au passage ce trophée. C'est le 13e sacre pour Paris dans ce match habituellement disputé en début de saison.
Du football toujours avec cette fois-ci la 16e journée de Ligue 1.
Les derniers matchs du week-end. Les Toulousains l'ont emporté sur le terrain du RC Lens sur le score de 1-0. De son côté, Angers a battu Brest 2-1. Enfin, Strasbourg a signé une victoire sur Auxerre 3-1. Le dernier match opposera d'ici quelques petites secondes. Le coup d'envoi vient d'être donné entre Marseille et Le Havre. Le coup d'envoi donné donc il y a un instant sur la pelouse des Marseillais.
Quant à Antoine Comboiré, il a fait une mise au point après ses charges contre la presse nationale spécialisée qui avait prédit, on s'en souvient, sa fin d'aventure au FC Nantes en fin d'année dernière.
Ouais, les deux dernières conférences de presse pour ce début d'année 2025 ont tourné court. Le coach calédonien n'en démord pas après avoir vu son cas largement évoqué dans les médias sportifs nationaux et son départ déjà acté dans certains quotidiens. Alors que, retournement de situation, Antoine Comboiré a finalement été conforté à son poste juste avant la qualification en 16e de finale de la Coupe de France. Il s'est dit agacé par cette presse nationale spécialisée à qui il reproche d'avoir annoncé son licenciement juste avant Noël et sans prendre, selon lui, de précautions.
Je ne suis pas fâché. Dès le début, je n'étais pas fâché. Hein. Je suis venu d'ailleurs parce que si je suis fâché, les gens ils vont le voir. Hein. Tranquillement, j'ai expliqué ce que j'avais à dire. Parce que donc voilà, il y a des choses que j'ai pas acceptées. Pas le fait que on parle de moi après la défaite contre Brest, la semaine qui a suivi là. Donc et puis surtout, bon, on a fait une semaine avant le match de Coupe de France. Pendant 7 jours, je vous dis bien les amis, 7 jours, j'avais ma tranche dans l'équipe, pas n'importe quel journal, l'équipe. Tous les jours, il y avait ma photo avant la Coupe de France. Il est plus entraîneur, mais surtout après la trêve, ben il est plus entraîneur du FC Nantes. Et puis je me pointe devant eux. Moi, je peux pas, alors c'est impossible. Les gens, ils peuvent. Quand t'es hypocrite, tu peux arriver et puis dire « Bon, Antoine, ça va, bonne année. tu vas bien, donc, et puis on reparle de foot. Non, les gars, non, ça ne peut pas se passer comme ça. C'était un feuilleton, hein, toute la semaine. Hein.
Voilà, Antoine Comboiré qui faisait une mise au point donc chez nos confrères d'RMC Sport. Il a boycotté les deux dernières conférences de presse, alors que le FC Nantes a réussi ce week-end à décrocher un match nul très important sur le terrain de Lille, quatrième du championnat de France. Un but partout.
On passe au rugby, Mickaël, avec une dernière affiche pour le compte de la 14e journée du championnat de France.
Et les Clermontois, 7e du classement, qui se déplacent chez les Bretons de Vannes, qui reste pour le moment lanterne rouge de ce top 14. Le promu dans l'élite n'a pour le moment enregistré que 3 victoires depuis le début de la saison. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 7h05 pour nous.
Les sports mécaniques avec le Dakar 2025 et les pilotes qui se sont élancés sur une étape de 48 heures chronométrée.
Un gros morceau d'entrée de jeu dans ce rallye raid. Au terme de la première moitié de cette deuxième étape, longue de 992 km, c'est le Saoudien Yazid Al-Hadji qui a terminé en tête dans la catégorie auto devant Nasser Al-Attiyah. Il y a eu du dégât dans les dunes d'Arabie Saoudite. Carlos Sainz, le tenant du titre, est parti à la faute. Il a fini sur le toit, perdant au passage plus de 20 minutes pour se remettre en état de rouler. Grande désillusion aussi pour Sébastien Loeb, le Français, victime d'ensablement dans les dunes, puis d'un problème électrique sur sa Dacia. Il pointe déjà à plus d'une demi-heure du leader. Dans la catégorie moto, cette fois, Daniel Sanders caracole toujours en tête depuis le prologue en fait. L'Australien au guidon de sa KTM mène la danse à l'issue des 600 premiers kilomètres de cette deuxième étape avant la reprise de cette deuxième étape qui, on le rappelle, se dispute donc sur 2 jours.
En voile, les leaders du Vendée Globe sont sur l'équateur.
Charlie Dalin sur Massif a franchi symboliquement la limite entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Désormais au beau milieu de l'Atlantique entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, il est toujours suivi de Johan Richomme à bord de Paprec-Arkéa qui compte quelques 250 km de retard sur le leader. Encore près de 5700 km à parcourir pour atteindre la ligne d'arrivée. Nous en sommes à plus de 56 jours de course dans ce Tour du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance.
Et beaucoup d'actualités sportives en Nouvelle-Calédonie. On commence, Mickaël Juneski, avec les sports de glisse et ce grand succès pour le retour de la One Hour Classic où près de 30 participants étaient réunis hier à la Côte-Blanche à Nouméa.
Oui, un rendez-vous multi-support où plusieurs catégories étaient proposées. Les compétiteurs qui ont répondu présents en nombre. Et c'est Maxime Meyer, 17 ans, jeune espoir du windsurf, qui a remporté la compétition toutes catégories confondues. Il repart donc avec le trophée Michel Berthomier. L'objectif pour le jeune homme maintenant, c'est de viser les compétitions internationales.
J'ai déjà participé à un championnat de France en moins de 15 ans. Ce genre de compétition, ben, ça permet à prendre confiance en soi pour pouvoir performer au national et à l'international. Prochain objectif, je l'espère, c'est participer donc au championnat du monde donc en slalom foil et en junior. C'est toujours intéressant de rencontrer d'autres cultures et d'autres concurrents qui sont parfois très très forts et ça fait de l'expérience et ça apporte vachement de plaisir à faire ce sport en fait.
L'association calédonienne de planche et de voile, organisatrice de cet événement, souhaiterait renouveler cette compétition désormais chaque année.
Du tennis maintenant, avec ce beau succès populaire pour le premier grand événement de l'année, le BNC Tennis Open, qui a attiré quelques 10 000 spectateurs durant une semaine sur les cours du Wentoro.
Un public heureux d'assister à de beaux matchs et de voir au plus près des grands noms du tennis. Quand on connaît les difficultés que les organisateurs ont rencontrées pour maintenir ce rendez-vous, c'est une performance d'autant plus exceptionnelle. Écoutez, à l'issue de ce tournoi, l'émotion d'Olivier Ledin, le directeur de ce BNC Tennis Open.
Il y avait deux mots qui étaient forts pour moi, c'était partage et résilience. On s'est battu toute l'année pour que le tournoi ait lieu. On a un beau vainqueur, il a vraiment très très bien joué toute la semaine, il a fait une belle semaine. C'est le premier japonais à gagner ici, il a son nom tout en haut des marches du Wentoro. Et puis c'est une belle semaine qui se clôture, le stade était plein. Comme je l'ai dit, c'est pour eux qu'on l'a fait, c'est pour eux qu'on s'est battu. On n'avait pas envie de lâcher, on sait que tous les ans il y a du monde, on sait que tous les ans le stade est plein au moment des finales. Pour nous c'est important parce que ça donne du sens à ce qu'on fait. Donc il faut se battre pour eux, on l'a fait, on va continuer à se battre pour eux dans les années à venir, même si les 2-3 années qui arrivent risquent d'être difficiles, mais en tout cas on va pas lâcher. Et je pense que la bande de fous furieux que j'ai évoquée dans mon discours sur le terrain va continuer à me suivre, donc s'ils continuent à être aussi fous que moi, ça devrait le faire.
Le public a répondu présent, alors que cette 20e édition avait été largement contrainte par la crise que connaît la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai. Côté résultat, résultats, Shintaro Mochizuki est devenu le premier japonais à s'imposer en battant en finale l'Australien aux origines tahitiennes Moerani Buzij, 6-1, 6-3. Vendredi soir, la finale du double a vu Colin Sinclair des Mariannes du Nord remporter un troisième titre consécutif à Nouméa, associé à l'Australien Blake Beldon. Ils ont battu les Japonais Ryuki Matsuda et Ryotaro Taguchi, 6-3, 7-5.
Et enfin, hors du territoire, Michael, les championnats de France élite de cyclisme sur piste se sont achevés cette nuit en Bretagne. Une compétition à laquelle prenaient part les Calédoniens Hugo Pommelet et Hervé Salin.
Oui, les deux cyclistes roulaient à domicile, hein, puisqu'ils évoluent depuis quelques mois à Loudéac, lieu de ces championnats de France. Hugo Pommelet était engagé sur la poursuite individuelle où il s'est classé 5e. Sur l'Omnium, il a fini 10e. Une épreuve remportée par le champion olympique 2024, Benjamin Thomas, devant Brian Coquard, vice-champion olympique en 2012 à Londres. Hugo Pommelet qui dresse un bilan positif de ces championnats de France.
Un beau retour, parce que ça faisait quelques temps que je ne retrouvais pas mon niveau. Et là, ça fait quand même plaisir, malgré les petits pépins qu'il y a eu, ça fait quand même ça fait plaisir malgré tout. Bon, mis à part le premier jour où ça a été vraiment dur, la course au point a été vraiment dure. Sinon, je suis quand même plutôt content de ce que j'ai fait. Et c'est sur la bonne voie en tout cas.
Hugo Pommelet qui se lance dans un nouveau projet en tant que pilote de tandem en compétition pour un cycliste malvoyant. En ce qui concerne Hervé Salin, il était engagé sur le Keirin où il s'est classé 7e. Il a aussi pris la 9e place sur le kilomètre arrêté et il a été éliminé en 8e de finale lors de l'épreuve de vitesse. Ses premiers championnats de France élite lui ont permis d'engranger de l'expérience.
Forcément, c'est une bonne expérience. Il n'y a que du bon à en tirer. J'ai pu apprendre des choses sur moi et aussi sur les autres coureurs. Apprendre à regarder une course extérieurement. Et j'ai appris des bonnes choses comme des mauvaises choses à corriger.
Hervé Salin pouvait compter sur les conseils et les encouragements de ses parents, Gérard Salin et Félicia Ballanger.
Ben, on est venu en novembre pour l'assister avec la sélection calédonienne. Et puis là, ben, comme c'est sa première chez les grands, on a tenu à revenir pour le scotcher et essayer de lui donner un peu de piment. Ben, oui, c'est positif, quoi.
Mon rôle, ben, c'est de le conseiller, évidemment, puisqu'il pratique les mêmes disciplines que ce que je pratiquais. Donc, le conseiller au moment où il est en compétition, parce que le coaching est important dans nos disciplines. Donc, voilà, j'essaie de lui apporter mon expérience.
Un prochain rendez-vous pour Hugo Pommelet et Hervé Salin, les Oceania sur piste. Ils se dérouleront à Brisbane du 11 au 15 février prochain.
Et je rappelle évidemment que vous retrouverez tous les résultats sportifs du week-end tout à l'heure dans le Mag des Sports à l'issue du journal Infomag.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la grisaille domine aujourd'hui, Thierry.
Oui, Nicolas, ce matin, le ciel sera souvent nuageux, plutôt voilé en altitude. Ce sera aux Loyautés. Quelques averses circuleront sur le sud ainsi qu'au nord des Loyautés. Ailleurs, le temps sera sec. Peu d'évolution en ce qui concerne le vent. Il sera orienté pour ce matin au sud-est. Il se maintient entre 15 et 22. Cet après-midi, le temps reste globalement maussade. Les nombreux nuages deviendront plus imposants sur la chaîne et donneront de bonnes averses qui finiront par déborder sur les versants ouest de la chaîne. L'Alizé, lui, est orienté toujours au sud-est pour cet après-midi. Il reste sous tenu. Il sera souvent proche des 20 nœuds, localement 20 à 25 nœuds avec des rafales sur l'ouest et la pointe nord. Les températures entre 28 et 30 degrés en général et localement 31 à 32 degrés et ce sera bien sûr sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal.